Bonjour, toutes celles et ceux que j'ai pas vus avant. Hein. Tout le monde est arrivé d'un coup là, pouf pouf pouf. C'était bien, ça fait plaisir. Je veux continuer. Peut-être vous avez lu la pensée du mois, peut-être vous avez reçu le mail qu'on a fait suivre à tout le monde. Tricher ou ne pas tricher. Et j'ai envie de commencer cette année en développant un petit peu plus ce thème parce que c'était ma conclusion de l'année dernière, en fait, et puis je trouvais une bonne façon de commencer cette année. Alors, je trouve que c'est assez amusant, du haut de l'humour, que ce soit un Français qui explique à des Suisses tricher ou pas tricher. Hein, quelqu'un m'a déjà fait la remarque, hein, mais c'est quand même un truc très français, ça. Puis, bon, ça dépend sur quoi et comment, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, en fait, je ne veux pas spécialement, ça serait un sujet aussi, hein, mais parler ce matin de tricher sur notre déclaration d'impôt ou tricher avec des choses comme ça, même si c'est quelque chose qu'on pourrait aborder, n'est-ce pas, des spécialistes ici. Tricher, hein, pour détecter la tricherie, attention. Je précise. Hein. Voilà. Mais dans le domaine spirituel et dans le domaine des relations, donc relations avec Dieu, relations avec nous-mêmes, relations avec les autres, hein, l'importance de ne pas tricher. On discutait avec, enfin, on partageait avec Mathieu et Marc en fin d'année, et puis on était très reconnaissants pour ce qu'on a pu vivre cette année, notamment avec ce parcours Alpha, avec la venue d'autres personnes aussi, etc. Et on se disait, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'an prochain ? Et ma pensée, c'était ne pas tricher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais que quand je suis arrivé ici, il y a 12 ans maintenant, on a essayé de faire plein de choses bonnes, bien, hein, belles, qu'on pensait que Dieu voulait qu'on fasse, et je pense qu'il voulait qu'on les fasse. On les a faites, on a eu du plaisir à les faire ensemble, hein, que ce soit les spectacles de Noël, les mimes dans la rue, les cours de ci, de ça, le reste, les trucs, les soirées libres. On a fait plein de choses qui étaient très agréables, qui étaient très bien, mais sans que ça semble porter de fruits dans le domaine visible, en tout cas dans le fait que d'autres personnes viennent ou comme ça, bon. Voilà. Et puis, y a eu ce parcours Alpha qui est venu, et puis ça s'est fait tout seul, et puis ça semblait disparaître, et puis ça s'est fait quand même, et puis ça a été très beau. Et on a pu voir ce qui se passe quand Dieu fait les choses, et puis ce n'est pas nous qui le faisons, hein, ça c'était très très clair. Et dès qu'il se passe quelque chose de positif et de visible, la tentation de tricher est là. Hein, c'est, maintenant on sait, alors on va faire comme ça, alors c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a fait ça, et puis on veut continuer de voir des résultats visibles et ils ne nous appartiennent pas, et donc la tentation de tricher est là, hein. Et c'est de là qu'est venue cette réflexion. Alors quelques pensées pour amener à un texte biblique qui va nous permettre de creuser un petit peu ça. La première, c'est surtout des rappels de choses que j'ai souvent partagées mais que j'ai remis ensemble ici. Hein, rappelez-vous, l'adversaire le plus dangereux de la vérité, c'est pas le mensonge, c'est la contrefaçon. Parce que le mensonge, c'est gros, quoi. Ça, normalement, on le voit. Mais la contrefaçon, c'est grave parce que on pense que c'est la vérité et c'est pas la vérité. Hein. J'ai jamais de souci quand je parle avec des gens qui croient pas en Dieu, parce qu'ils croient pas en Dieu, et puis aucun problème, c'est pas compliqué. Hein. Ce qui est compliqué, c'est les gens qui pensent connaître Dieu, mais qui en ont une fausse idée, ou les gens qui pensent connaître l'Église, mais ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas l'Église, etc., etc. Et ça, c'est grave parce que c'est très compliqué de les toucher, puisqu'ils pensent savoir, mais ce qu'ils pensent est faux, mais ils ne savent pas que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La contrefaçon. Donc ça, c'est une chose qui est importante, parce que ça fait partie de ce contexte de tricherie. Une autre chose à rappeler, je l'ai souvent dit de façon différente, mais je le dis un petit peu autrement, on peut être conduit ou on devrait être conduit par l'Esprit de Dieu. Il peut se manifester au travers de nos vies, de nos paroles, de nos actes. Il vit en nous, mais nous ne sommes jamais son maître. Il se manifeste réellement, mais quand nous sommes dans la volonté de Dieu, mais il ne nous appartient pas. Et ça, c'est toujours le piège. Quand Dieu permet que par la vie de quelqu'un, par ses paroles, par ses actes, etc., il se passe quelque chose dans le domaine visible, immédiatement, la personne peut être tentée de s'en emparer comme si elle maîtrisait maintenant cette chose-là. Et ça, c'est de la triche, parce que ce n'est pas vrai. Dieu peut vous utiliser, vous priez pour quelqu'un, il est guéri. Peut-être que ça va arriver deux fois, trois fois, ou dix fois, ou une fois, ou pas du tout. Et ça, c'est Ben, on veut que ça existe, hein, que ça se passe, pardon. La Bible dit que c'est réel, on l'a vécu peut-être certains d'entre vous ou pas, mais voilà. Mais même si Dieu m'utilisait 3, 4, 5 fois, 10 fois ou même 20 fois, parce que j'ai prié pour lui, il guérit quelqu'un, si je commence à dire j'ai le pouvoir de guérir les gens, oui, avec Dieu, mais je triche, c'est pas vrai. Hein. Dieu peut le faire ou il peut arrêter de le faire, il peut le faire par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, toujours être conscient que nous appartenons ou nous essayons d'appartenir à la vérité, nous essayons d'entrer dans la volonté de Dieu, mais lui ne nous appartient jamais. Hein. Et j'ai souvent pris cette image, la vérité, qui est la pensée de Dieu, c'est comme un grand fleuve, et puis des fois on y a les pieds dedans, des fois on est jusqu'aux genoux, des fois on trempe dedans, des fois on se laisse porter, c'est magnifique. Mais je ne peux pas sortir du fleuve et dire j'ai la vérité, non. C'est moi qui lui appartiens ou pas. Hein. Et là aussi, c'est facile de tricher. C'est pour ça que je réfléchissais, et je me disais en fait là, la vie chrétienne, pourrait, la vie de l'enfant de Dieu pourrait se résumer à une petite phrase que je n'ai pas prise chez un théologien, mais chez mon ami Francis Cabrel, dans le morceau que tout le monde connaît, « Je l'aime à mourir », quand il dit « Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir ». Et en fait, ça pourrait être un résumé du but de la vie de l'enfant de Dieu. « Je ne dois rien vouloir d'autre » que tenter de lui appartenir. Parce qu'il ne va jamais me prendre de force, il ne veut pas m'obliger, il ne veut pas me forcer. Et comme l'a dit très justement Marc ce matin, hein, Dieu n'aurait pas changé l'eau en vin aux noces de Cana s'il n'avait pas été invité à la noce. Dieu pourrait s'imposer partout, évidemment, il est Dieu. Hein. Mais il a fait un choix avec lequel il ne triche jamais, parce que Dieu ne triche pas. Hein. Il ne triche jamais. Si on ne l'invite pas, il ne vient pas. Éventuellement, il se tient à la porte, il frappe, hein, ou il propose, il essaie d'ouvrir quelque chose, mais on doit toujours l'accepter, le désirer, le vouloir, y consentir en tout cas. Donc, je ne dois rien vouloir d'autre que essayer de lui appartenir et de me maintenir dans ce courant où je lui appartiens. Alors, bien sûr, c'est théorique parce que parfaitement on ne peut pas le faire et tout le temps on ne peut pas le faire, etc. Mais c'est ce qu'on va viser. Et la pensée suivante, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, le but de l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas forcément de nous pousser dans l'immoralité la plus crasse, parce que ça peut nous arriver, hein, on n'est pas à l'abri de ça, bien sûr. Mais c'est gros aussi, on le sait, quoi. Mais s'il peut tout simplement nous amener à faire des choses qui ont l'air bien, mais sans Dieu. Ça, c'est son raffinement, c'est ce qu'il préfère. Et juste une parenthèse, il ne faut pas tirer de ce que je viens de dire là l'idée que quand des gens non-croyants font le bien, ça n'a pas de valeur. Le bien est le bien, tout ce qui est bien vient de Dieu. Qu'un croyant ou un non-croyant fasse quelque chose de bien, bah, c'est quelque chose qui vient de Dieu et c'est bien. Hein. Donc, parce qu'il y a un extrême à cette pensée qui est faux, c'est donc, de toute façon, l'humanisme, c'est pas bien, les gens qui font du bien, c'est pas bien, il y a que... Non, non, il faut laisser chaque chose à son niveau. Hein. Dans la vie humaine sur notre terre, chaque fois que quelqu'un fait du bien, ça réjouit le cœur de Dieu, et c'est mieux pour les êtres humains, d'accord ? C'est un autre sujet, et ça se mélange pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, donc personnes qui ont consenti à ce que Christ a fait soit appliqué à leur vie et qui veulent vivre en tant qu'enfants de Dieu, le but de la vie, c'est pas juste de ne rien faire de mal, hein. Souvent quand on pense à ne pas pécher, on pense ne rien faire de mal de façon négative, je vole pas, je triche pas, je mens pas, je suis pas dans l'immoralité, etc., etc. Évidemment que ça, c'est une chose qui doit être éliminée de nos vies, mais éliminer ces choses là de nos vies suffit pas. Et en fait, le fait que ça disparaisse de nos vies, ça doit être une conséquence et pas l'endroit où nous mettons notre énergie. Par contre, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous dépendions de lui, que nous marchions dans ses plans, dans ses voies, et surtout que nous ne trichions pas. C'est-à-dire que nous refusions d'utiliser les mauvais outils, les mauvaises pensées, les mauvaises façons de faire pour accéder à quelque chose qui paraît très bon. Hein. C'est là que le piège de la triche est le plus fort. Et on va le voir encore un peu plus. La triche, elle peut intervenir en prenant l'apparence de la foi, hein, parce que c'est facile d'utiliser la foi pour couvrir ce que j'aimerais faire. Hein. Ouais, je veux alors par la foi, je veux faire ça pour Dieu. Hein. En réalité, ce que je veux, c'est mes affaires à moi. Elle se cache derrière des intentions qui ont l'air louables. Hein. Oh, on fait ça pour la gloire de Dieu. Et encore une fois, peut-être pas encore une fois, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais une fois de plus, je l'ai déjà dit souvent, sur tous ces sujets-là, comme pour tout, on n'écoute pas ça en disant « Ah, ça me fait penser à lui, à lui, à lui, à lui. Hein. » Moi, quand je vous parle, c'est le résultat de mes réflexions et de mes discussions entre Dieu et moi, et je pense uniquement à moi dans ces choses-là. J'ai un ami en France qui en correspond souvent, et puis quand j'ai envoyé aussi la pensée du mois, là, que c'était ma lettre de vœux, et puis il me dit « Oh là là, tu es dur, hein, tiré comme ça, boulet rouge. » Je dis « Mais j'ai pas l'impression que c'est dur. » Je dis « Mais en fait, la pensée ne m'a même pas traversé parce que quand j'ai écrit ça, c'est à moi que je pensais. » Et là aussi, il ne faut pas tricher. Hein. Donc, voilà, petit rappel. Parce que c'est tellement facile quand on entend ces choses-là de dire ah oui, lui il fait ça, oh là, oh, lui il triche, oh, et elle, non, c'est chacun pour nous. Voilà. Et j'aimerais essayer de reprendre tout ça avec deux textes qui se superposent dans les évangiles, Luc 4 et Matthieu 4, vous avez déjà deviné, ce qu'on appelle la tentation du Christ. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans beaucoup de romans contemporains, modernes, on a inventé des tentations au Christ, hein, avec Marie-Madeleine, qu'il était homosexuel, enfin, je sais pas, plein de tentations, j'allais dire charnelles, grossières, qui sont en tout cas pas mentionnées dans la Bible, hein, s'il a eu ces tentations dans ce domaine-là. Par contre, on ne parle pas de ce que la Bible nous dit sur ce moment où Jésus a été tenté. Et en fait, sachant que Jésus n'avait pas le mal en lui, hein, la tentation pour l'immoralité, je vais donner ce mot pour englober les choses qui sont le mal visible, hein, ce n'était pas la chose la plus difficile pour lui à résister. La tentation et le diable, qui est un professionnel dans le domaine, savait là où il avait éventuellement, il le pensait, ça n'a pas marché, une chance de réussir. Parce que Jésus était dans le désert, après il n'a pas dit « Ah, si tu veux, il y a une jolie fille là-bas derrière, si tu veux, là-bas tu peux aller te saouler, j'ai des nouveaux produits super à essayer. » Non. Il a essayé d'amener Jésus à accomplir le plan de Dieu en trichant. Et ça, c'est le piège pour les enfants de Dieu qui veulent vivre avec Dieu. Et c'est pour ça que ramener le christianisme à de la moralité, de l'éthique, c'est bien pour la vie en société, mais ce n'est pas le but. Alors, on va prendre ces deux textes qui sont à peu près semblables, mais il y a quelque chose dans les ordres, ils se complètent un petit peu. Je vais lire d'abord dans Luc. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas vraiment, mais voilà. Comment il a été tenté, hein, mais... Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Assez compréhensible, après 40 jours. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » C'est le diable qui dit ça. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et Matthieu complète en disant, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il cite Deutéronome 8:3, hein, qui littéralement dit cette chose-là, quoi. Alors, la première tentation... ou la première attaque, ou la première proposition de triche que l'ennemi va faire à Jésus, c'est « si tu es le Fils de Dieu, ben fais ça ». La première tentation de tricher, c'est d'essayer de prouver qui on est par ce qu'on fait. Si tu es un vrai chrétien, tu dois faire ça, ou pas. Parce que, voilà, ça dépend. Je ne parle pas ici de dire « Ah, mais je peux pécher parce que Dieu m'a dit de le faire. Hein. » On a mis de côté ces choses-là, bien sûr. Quand la Bible dit qu'une chose est mauvaise, il n'y a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour savoir qu'elle est mauvaise. Donc le mensonge, le vol, l'adultère, toutes ces choses-là, c'est mauvais, on les commet, on reconnaît notre péché, on les pardonne, on se relève, on continue. Je ne parle pas de ça ce matin. Mais on veut avancer avec Dieu, c'est pour ça qu'on est là ici, sinon on ne serait pas ici ce matin. Hein. Et la première tentation de triche, c'est ça. Ah, mais si tu es un vrai chrétien... Hein, ben un vrai chrétien, le dimanche matin, il est content, et puis même s'il est triste, il chante, et puis il dit « Alléluia », et puis quand on lui dit « Comment ça va ?», ben il ne va pas bien, mais il dit « Ça va bien », parce que c'est la foi. Non, c'est la triche. Ça ne veut pas dire qu'on doit raconter notre vie privée en détail à tout le monde tout le temps. Mais quand je ne vais pas bien, je n'ai pas besoin de dire « Je vais bien » parce que c'est dimanche matin, et que je suis chrétien, et que je suis à l'église. À la rigueur, je ne dis rien, ou je ne réponds pas. S'il y avait quelqu'un, je pense que je peux le dire, je dis, ben, en ce moment, je ne vais pas bien, tu peux prier pour moi. Et puis s'il me dit, tu veux qu'on en parle, ben, peut-être il faut qu'on en parle. Hein. Mais on n'a pas à tomber dans le piège d'essayer de prouver qui on est par ce qu'on fait. Hein. Et on doit chercher une réponse à nos difficultés existentielles, pas dans ce que nous faisons, mais dans la pensée de Dieu. Je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas quelqu'un qui a réussi sa vie parce que dans le monde visible, je ne sais pas, j'ai évangélisé, les gens sont convertis, ou j'ai prié pour quelqu'un et il est guéri. Je suis quelqu'un qui a de la valeur parce que Dieu dit qu'il m'aime et que j'ai de la valeur, point. C'est ça qui doit nourrir ma vie, hein. L'être avant le faire, et le faire qui est la conséquence de ce que je suis. Parce qu'on va voir que la conséquence de la triche est toujours la même. Quand j'accepte de tricher, je parle dans ce domaine-là, hein, c'est beaucoup moins grave de tricher aux cartes, par exemple, ça c'est pas grave. À la rigueur, ça fait juste qu'on gagne, c'est tout. Mais dans le domaine dont je parle ce matin, quand je triche, je me rends esclave du diable, hein, du mensonge. Et je me mets dans une souffrance, parce qu'à partir du moment où je triche, et que je sais que je triche, parce qu'on se fait tous avoir, des fois on ne le sait pas, hein, je commence à vivre, un, dans la culpabilité, et deux, dans la peur d'être démasqué. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. On a beau... les gens, en général, ne le voient pas forcément. Hein, mais nous, on a l'impression que c'est écrit ici, quoi. Hypocrite, menteur. Hein, et puis, on est là, et puis, on veut montrer que... Et puis, Hein, je trouve que c'est pire que d'échouer. De faire semblant d'avoir réussi quand on n'a pas réussi. Je parle dans le domaine de la vie intérieure. Donc, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'aime. Et ce n'est pas du tout une excuse pour bah, « ça va mal, je reste dans le... » Non, non. J'ai besoin de me nourrir de toute parole de Dieu qui va construire qui je suis. Mais si ce que je fais n'est pas le fruit de qui je suis, et si qui je suis n'est pas le fruit de la pensée de Dieu, cette parole qui nous nourrit, alors ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que c'est mal, mais ça n'a pas de valeur. Et puis surtout, ça fait de moi un prisonnier, parce que la force incroyable de Jésus, et nous on n'est pas Jésus donc on ne peut pas dire ça, hein, mais quand Jésus a marché à la croix, il dit cette phrase incroyable, « Le prince de ce monde vient, donc Satan, hein, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Aucun moyen de pression. Je vais à la croix parce que j'ai décidé d'aller à la croix. Il ne peut pas m'obliger, il ne peut pas me manipuler, il ne peut pas me faire chanter. Il ne tient rien de moi. Mais chaque fois que je triche, je donne au mal un moyen de pression sur ma vie. Et c'est pour ça que c'est grave. Souvent, c'est pas la chose qu'on a faite qui est grave. Hein. Je mens sur un truc, voilà. C'est pas bien de mentir. Mais ce n'est pas tant le mensonge que le fait que maintenant, il y a, une prise sur moi. Hein. Je l'ai déjà dit, mais quand je vivais en Roumanie, naïvement au début, en parlant avec certaines des personnes que j'avais rencontrées, je me disais, mais comment ça se fait quand même que vous soyez resté 40 ans sous une dictature comme ça et puis que vous ne soyez pas révolté avant, même s'il y a l'armée, même s'il y a la police, vous êtes plus nombreux, si tout le peuple... Et ce que j'ai réalisé petit à petit en comprenant, et puis après, ben, j'ai vu que j'étais pareil dans d'autres domaines, hein, c'est que quand personne n'a les mains propres, tout le monde a peur de tout le monde. Et du coup, tout le monde est prisonnier de la peur et du mensonge. Hein. Et dans un système comme ça, ce qui fait que le totalitarisme fonctionne, c'est que tout le monde, pour survivre, s'est mouillé les mains quelque part, et donc tout le monde est un peu coupable de quelque chose, et donc je ne peux pas dénoncer mon voisin qui a pris 1000 francs, parce que moi j'ai piqué 10 francs, et puis que si je dis qu'il a piqué 1000 francs, il va dire que j'ai piqué 10 francs, et celui qui a piqué 1000 francs ne peut pas dire que l'autre a piqué 10 000 francs, parce qu'il sait que lui a piqué 1000 francs. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des échelles complètement disproportionnées, hein. Il y a quelqu'un qui a détourné les trois quarts des ressources du pays pour lui, et l'autre a piqué 3 francs pour manger, mais personne n'a les mains propres, et du coup, personne ose, parce que... Hein, voilà. Et c'est ce que la tricherie produit dans nos vies. Et c'est pour ça que lorsque on fait pas le choix de l'authenticité, de l'honnêteté dans nos vies spirituelles, il n'y a plus de relation authentique possible entre croyants, entre frères et sœurs. Mais du coup, s'il n'y a plus d'église, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas des horaires, ce n'est pas des activités, c'est les relations entre hommes et femmes qui eux-mêmes sont connectés avec Dieu. Mais vu que la triche fait que je ne peux pas montrer qui je suis, parce que si je montre qui je suis, il y a ce petit truc-là que j'ai caché, que j'ai... Donc du coup, il y a une image que je donne qui discute avec l'image que l'autre donne, et deux affiches qui se rencontrent, elles peuvent dire que des platitudes, hein, des phrases toutes prêtes. Et du coup, on doit remplir nos vies de formules. J'ai écouté le dernier chant, que j'ai trouvé très très beau, et je me disais, qu'est-ce que j'en comprends? Et ma conclusion, c'était pas grand-chose. Une phrase comme « Ton nom est grand, il n'y a pas de nom plus grand. » Si maintenant, et je ne vais pas le faire, j'étais un prof de français, je vous disais « Prenez une feuille et écrivez ce que ça signifie en général et ce que ça signifie dans vos vies. » Je ne suis pas méchant, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de feuilles blanches. Et voilà, on a plein de... Et pourtant, ça veut dire quelque chose, hein. C'est dans la Bible, il y a du sens, etc. Mais... Voilà, on vit avec plein de choses comme ça, qui sont des formules, qui n'ont pas grand-chose derrière. Alors, ce n'est pas grave, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je peux dire, je ne sais pas, et me dire, tiens, j'aurais besoin d'y mettre du contenu derrière. Hein? J'ai un ami qui m'a répondu à un mail de vœux en me disant, « Oh, je te souhaite une année bénie !» Puis après, il me dit, « En fait, ça veut dire quoi ? Bonne réflexion pour cette année. » Je trouvais ça super, hein. Parce que voilà, c'est phrases comme ça qu'on dit, hein, mais qui cachent en fait le fait que ben, on triche un peu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je connais de la vie de Dieu ? Ben, si je suis honnête, tellement peu. Si j'enlève les rituels, les formules, les traditions et tout le reste, qu'est-ce qui me reste ? Pouf ! Hein ? Mais en fait, si je ne fais pas ce constat, et si je ne l'assume pas, et si je refuse pas de tricher, comment ça va changer ? Ça ne va pas changer. Parce que Jésus l'a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Tout le monde est malade, spirituellement. Mais tant que quelqu'un dit, moi je vais bien, ben Jésus n'est pas venu pour lui. Hein ? Ce n'est pas que les prostituées ou les collaborateurs avec les Romains étaient plus mauvais que les autres, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas bien, enfin certains d'entre eux, et Jésus avait accès auprès d'eux. Ceux qui pensent, je sais, je suis un bon chrétien, je sais, même si on ne dit pas ça, ben ça c'est orgueilleux, mais enfin, hein, voilà, on utilise... Donc, plus on va refuser de tricher, à la fois c'est effrayant, parce que tout d'un coup on se dit, mais alors j'ai plus rien, je suis quoi, je suis qui, je fais quoi ? Hein, mais plus on va permettre à Dieu d'aller de l'avant. Alors ça, c'était la première chose avec laquelle le diable a essayé de tenter Jésus, ça n'a pas marché. Hein. La deuxième, il lui dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Avant de voir la réponse de Jésus, voir la proposition que lui fait le diable. Encore une fois, ce n'est pas votre toi dans le mal, dans l'immoralité, etc. C'est, écoute, tu es venu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et le chemin que tu vas avoir à prendre, il est douloureux. Tu vas être trahi, tu vas être humilié, tu vas souffrir, on va te rejeter, tu vas mourir. Et moi, je te propose d'arriver au même résultat sans ces souffrances-là. Franchement, entre les deux propositions. Hein, D'un côté, on vous dit, personne ne va vous croire, on ne va pas vous écouter, on va vous trahir, on va vous tourner le dos, on va vous fouetter, vous mettre des épines sur la tête, vous planter des coups dans les mains jusqu'à ce que mort s'en suive, et les pieds, avec éventuellement un coup de lance dans le côté, mais ça, il était déjà mort. Ou vous allez avoir du succès. Vous allez prêcher, les gens vont vous écouter. Les foules vont venir, ils vont vous faire roi, et vous allez dominer la terre. Quel parcours on choisit, hein ? Et Jésus n'est pas tombé dans le piège. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour faire ce qui paraît bien. Je suis là pour faire ce que mon Père attend de moi et le plan qui a été établi, dans lequel il était partie prenante et puis volontaire. Il s'est humilié lui-même, il est venu sur terre, etc. Mais je réfléchissais et je ne crois pas qu'il y ait l'exception dans l'histoire de l'Église. Chaque fois que l'Église a accepté de chercher le pouvoir dans les choses terrestres, soi-disant pour le bien du royaume de Dieu, ça a été au détriment de la vie spirituelle, toujours. Et si vous connaissez un exemple historique qui dit le contraire, il m'intéresse, peut-être que ça existe, mais je ne le connais pas. Les chrétiens ont été persécutés pendant à peu près 300 ans, violemment mis à mort, brûlés comme des torches, mangés par des lions, etc. Et l'évangile s'est propagé. Impossible à arrêter. Tout d'un coup, c'est devenu la religion d'État. Catastrophe. Et c'est toujours la tentation aujourd'hui. Alors peut-être que là-dessus, je m'exprime en tant que Français, venant d'un pays qui n'a jamais été un pays, entre guillemets, chrétien, fervent défenseur de la séparation de l'Église et de l'État, mais je ne crois pas au pays chrétien. Les valeurs chrétiennes sont les meilleures pour qu'une société fonctionne sur Terre. Donc oui, c'est bien. Hein. Dans ce sens-là, la Suisse a, pour les chrétiens en Suisse, ont raison d'essayer de conserver les valeurs, la morale et l'éthique chrétienne pour vivre ensemble, parce qu'il n'y a rien de mieux. On est tout à fait d'accord avec ça. Et on vit plus mal ailleurs. Mais spirituellement, ce n'est pas forcément le meilleur. Il n'y a qu'à voir dans quel pays, quels sont les pays où l'Église prospère. Ben, les pays où l'Église n'est pas au pouvoir et n'a pas son mot à dire. La Chine, les pays très très pauvres, les dictatures, etc. C'est pas que je souhaite ces choses-là, je combattrais ces choses-là s'il fallait le faire, et je suis pour la liberté, la démocratie, etc. Mais chaque fois que les chrétiens ont eu la tentation de prendre le pouvoir pour soi-disant répandre l'Évangile, ça a mal tourné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y continuer d'essayer de le faire, mais juste, il y a une grande réflexion là. Et c'est la même chose avec ce qu'on appelle les églises. Quel est notre but ? On ne peut pas en même temps poursuivre l'établissement du royaume de Dieu et le nôtre. Et je peux vous dire, même à mon âge, et même avec la quantité de non-succès que j'ai connu dans ma vie, c'est difficile de ne pas tricher. C'est difficile de ne pas tricher. Parce qu'on veut du succès. Hein. On veut être reconnu, on veut que ça marche, on veut qu'on puisse avoir un plus grand bâtiment, on veut qu'on soit reconnu comme ayant réussi. Et puis c'est tellement facile. Oui, mais c'est pour que le royaume de Dieu grandisse. C'est vrai, mais est-ce que j'ai besoin d'un bâtiment parce que Dieu a sauvé des gens et qu'il faut bien les mettre quelque part ? Ou est-ce que je veux un grand bâtiment parce que ça soit mon autorité ? Et il faut des bâtiments. Et j'aimerais que celui-ci soit trop petit et qu'on en cherche un plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste dans quel ordre les choses sont. Et c'est difficile de ne pas tricher. C'est très, très difficile de ne pas tricher. Alors, ben voilà. On doit en tout cas aller devant Dieu à chaque fois. Parce que les mauvaises pensées, on ne peut pas les empêcher de venir. Ce n'est pas un péché. Vu notre nature corrompue, les mauvaises pensées, elles viennent. Mais justement, on a la possibilité d'aller à Dieu avec ses pensées et de lui dire « Hey, tu vois cette pensée-là ? Je ne la veux pas. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas honnête. Oui, elle pourrait m'arranger, mais je ne veux pas tricher. » Et en faisant ça, on se coupe un peu l'herbe sous les pieds, naturellement. voilà, quand je suis arrivé ici, il y avait plus de monde qu'aujourd'hui, et j'ai dit aux gens, si vous ne venez pas pour des bonnes raisons, ne venez pas. Il y a plein de gens qui m'ont écouté, et on est moins nombreux qu'il y a 12 ans. Vrai, j'en plaisante, mais c'est vrai. Hein. C'est pas si facile que ça à faire, même si je plaisante avec ça. Parce que, ben quand même, qu'est-ce qu'il en ressort ? Ben, si c'était un bon pasteur, l'église elle aurait grandi, elle n'aurait pas diminué. Hein. Donc il y a forcément quelque chose qui ne joue pas quelque part, ce qui est probablement vrai en plus. Il y a des choses qui ne jouent pas avec moi, je veux dire. Hein. Mais c'est difficile de ne pas tricher. Parce que c'est tellement facile de tricher. Parce qu'en plus, ça marche. Souvent. Hein. C'est difficile. Donc cette tentation d'avoir le pouvoir soi-disant pour, hein, la fin qui justifie les moyens, c'est terrible. Mais c'est probablement ce qui a le plus discrédité le christianisme dans l'histoire et encore aujourd'hui. J'arrête. En fait, chacun de ces points, ça aurait pu faire un message. Je m'en aperçois maintenant, donc voilà, tant pis. Vous aurez du boulot pour la suite. Et le dernier, que j'aime beaucoup. Donc là, ça fait deux fois que le diable se fait reprendre par une il propose quelque chose et Jésus répond par un texte des Écritures, hein, chaque fois. Les deux fois. Donc, le diable qui apprend très vite et qui est très malin, c'est un de ses noms, hein, il se dit, ah, bon, alors je vais utiliser les Écritures, parce que la Bible, on fait ce qu'on en veut. Hein. C'est très facile. Donc, il arrive et puis il le transporte sur le temple à Jérusalem et là, il trouve un super verset, parce qu'il a fait toutes les études de théologie possibles et imaginables, le diable. Hein. Et il dit, voilà, ben, t'as qu'à sauter. Et il est dit, tu donneras des ordres à son sujet afin qu'il le garde et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Effectivement, ce texte est dans la Bible, c'est vrai, c'est pas de ça qu'il parle, c'est pas à ça qu'il s'applique, mais le diable l'a trouvé dans la Bible et il l'utilise, il dit à Jésus, tu te rends compte là ? Je t'offre un coup de pub incroyable. Ok, bon, tu veux pas de mon aide pour éviter la croix, d'accord, mais quand même, tu veux que les gens t'écoutent. Alors moi, je te propose quelque chose. Hein. Je provoque un petit miracle là, et tu vas voir comme les gens vont te suivre. Ce qui est faux, parce que Jésus a fait d'autres miracles après. Les gens ne l'ont pas suivi pour autant. Hein. Tentation. Tentation de quoi ? Du miracle pour le miracle. Jésus a fait énormément de miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Nous en voyons moins de nos jours. C'est un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois toujours aux miracles aujourd'hui. Je le dis. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Des vrais. Hein, voilà. Mais Dieu n'a jamais fait un miracle pour un miracle. Quelqu'un a faim, il lui donne à manger. Il n'y a pas à manger, il multiplie le pain. Si les gens avaient eu de la nourriture dans leur sac, Jésus n'aurait pas multiplié les pains juste parce qu'il savait le faire. Quand Jésus a guéri un paralytique, c'est parce qu'il avait il était ému par la souffrance de cet homme. Pourquoi il ne guérit pas tous les paralytiques ? J'en sais rien. Mais en tout cas, Jésus n'a jamais fait un miracle pour faire un miracle. Il a fait un miracle parce qu'il y avait un besoin et que dans sa souveraineté, j'ai aucune explication, il décide de contourner les lois physiques habituelles et de faire quelque chose d'autre. Hein, par amour pour la personne, par compassion. Jamais c'est gratuit. S'il y avait eu une barque le jour où Jésus a marché sur l'eau, il aurait pris la barque. Juste, il fallait qu'il aille de l'autre côté, il n'y en avait pas. Bon, ben, il a marché sur l'eau, c'est pas un souci pour lui. Mais il n'a pas marché sur l'eau pour marcher sur l'eau, pour que pendant 2000 ans, on dise « Oh, il marchait sur l'eau !» Parce que sinon, il aurait pu marcher sur l'eau tout le temps, ou il aurait pu marcher à un mètre du sol, ou il aurait pu, je ne sais pas moi. Hein. Jamais il a fait ça. Alors, je sais que ces versets à la fin de l'évangile de Marc ne sont pas dans tous les manuscrits. Hein. Donc, ça peut être à discuter. Mais quand même, l'idée est intéressante. Il dit, c'est la fin de l'évangile de Marc, « Et voici les signes et les prodiges qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. » Qui suivront. C'est-à-dire que je marche avec Dieu, je fais ce qu'il me dit de faire, hein, et éventuellement, derrière, dans le sillage, il y a des miracles. Mais Jésus n'a jamais dit « Suivez les miracles ». C'est les miracles qui suivent ceux qui marchent avec Dieu. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, il y en avait beaucoup, aujourd'hui il y en a moins. Hein. Mais c'est aussi une tentation de vouloir provoquer les choses, hein, juste pour le côté... Parce que si une chose est sûre, c'est que si les miracles pouvaient produire la foi, alors la génération qui a connu Jésus se serait tournée vers Christ, ils l'ont crucifié. Donc les miracles, ça ne produit pas la foi. Mais derrière, dans le sillage de la foi, il y a des miracles. Et j'aimerais qu'il y en ait plus. Je prie pour. Hein. Il n'y a rien qui dit dans la Bible de ne pas prier pour ça. Mais on ne les suit pas parce qu'ils ne veulent rien dire en eux-mêmes. Ils sont parfois l'expression de la compassion de Dieu, de son amour et un grand mystère aussi pour nous. Donc dans toutes ces choses-là, on peut tricher et Jésus, là, répond par un autre texte, mais qui lui est approprié. Hein. Et j'ai aimé la traduction du semeur là-dedans, parce que c'était, dans certaines traductions, c'est « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Puis ça veut dire quoi, tenter Dieu? Et là, comment c'est? Tu ne chercheras point à forcer la main de l'Éternel ton Dieu. J'ai beaucoup aimé cette traduction. Je pense qu'elle rend bien l'idée qu'il y a dans le texte. Tu ne chercheras point à forcer la main de l'Éternel ton Dieu. T'es le boss, moi pas. Hein. Souvent, en tant que croyant, et je parle peut-être encore plus en tant que responsable dans une église, mais tous les croyants, on est comme des hommes d'affaires hein, qui ont un projet, qui font leur projet, ils font leur business plan, leur machin, tout ça et tout, c'est pas mon domaine, alors je sais pas comment on fait ça, mais enfin, ils préparent tout, et une fois qu'ils ont fait ça, ils cherchent des investisseurs pour financer. Hein. Et souvent, ou très souvent, ou très 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 souvent, en tant que chrétien, quelle que soit l'échelle, hein, pour ma vie, pour mon église, pour mon pays, on fonctionne comme ça. On fait nos plans, intelligemment, avec ce qu'on sait, et après, on voudrait que Dieu investisse dans nos affaires. Et Dieu dit, ça, c'est pour ton royaume. Et des fois, il investit un peu, parce que ça peut être utile, parce qu'il est Dieu, parce que, etc., etc. Hein. Mais ce qu'il veut, c'est pas ça. Il nous donne une feuille blanche, et il dit, voilà, je te propose un contrat, signe. Ah, mais il est où le contrat? Signe. Tu signes, et moi je remplis le reste. Mais que si on veut, parce qu'il force jamais. Et en fait, chaque jour, je dois dire à Dieu, je ne veux pas de toi que tu investisses dans mes affaires, je veux vivre dans les tiennes. C'est ton royaume que je veux, ce n'est pas le mien. Et si pour ton royaume c'est mieux que j'ai du succès, ben j'apprécie, j'accepte. Hein. Paul a dit, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la détresse. On n'est pas dans un truc où il faut être minable, malheureux, moche et bête pour que ce soit du succès, que Dieu soit content. C'est pas ça. Dieu donne du succès dans certaines entreprises, c'est super, on l'apprécie, on est reconnaissant, c'est lui qui l'a fait, merci. S'il veut en donner plus, on le prend. Donc c'est pas du tout un esprit de se lamenter en disant plus on sera minable, mieux ça sera. Dieu est glorifié quand les choses marchent bien. Sauf que il faut pas tricher. Et il y a tellement de mystères que c'est compliqué. Comme je vous l'ai souvent dit, moi je suis venu à la foi à une époque où les gens tapaient à notre porte toute la semaine en disant bonjour, il paraît qu'ici on peut rencontrer Jésus. On leur disait trois mots, n'importe quoi, ils devenaient croyants, on les baptisait à la baignoire, ils étaient chrétiens, puis ils marchaient avec Dieu. J'ai vécu 5, 6, 7, 8 ans comme ça. 400, 500 conversions sur une dizaine d'années, des vraies conversions, des gens qui aujourd'hui sont dans des églises. Et après 10 ans de vie chrétienne comme ça, je pensais que ben c'était parce que je savais comment il fallait faire. Ben, je n'étais pas pasteur à l'époque, hein, j'avais 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Mais c'était normal. Et puis un jour, ça s'est arrêté. Et puis j'ai passé le reste de ma vie à me demander, mais pourquoi? Ben, j'en sais rien. Je n'étais pas meilleur à cette époque-là. Les gens qui étaient là n'étaient pas meilleurs. Ils ne connaissaient pas mieux la Bible. Ils n'étaient pas plus spirituels. Ils ne priaient pas plus. Dieu l'a fait. Et merci, c'était magnifique. Après, il n'a plus fait. Pourquoi? J'en sais rien. Hein. Mais on ne doit pas tricher. Et on accepte ce que Dieu nous donne. C'est la bénédiction. Gloire à Dieu. C'est la plus grande épreuve, la bénédiction. Parce que quand tout nous réussit, ça arrive rarement que tout réussisse en même temps. Mais quand beaucoup de choses réussissent, il faut être très, 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 très fort pour ne pas tricher. Quand tout va mal, c'est beaucoup plus facile de ne pas tricher. Parce que quand on n'a plus rien, ben on n'a plus rien à perdre. Hein. Donc, ben voilà. Et pour les gens qui ne sont pas très forts comme moi, le chemin pour apprendre ça, ça a été de rater, de rater, de rater encore, de rater, de ne pas y arriver, de ne pas avoir de succès, de ne pas y arriver, de ne pas y arriver, jusqu'à un moment où on se dit, mais je fais quoi? Et on découvre finalement le repos de j'ai le droit d'être un raté. Ah, et Dieu m'aime. Ah. Dans tout ce que j'ai touché dans ma vie, presque rien a fonctionné. Et Dieu m'aime quand même. Ah. Et puis s'il veut que ça marche, je prends. Hein. Mais au moins, je n'ai pas à faire semblant. Le repos de... Ben voilà, j'ai plus peur comme des masques, c'est moi. Vous le savez, c'est lui, voilà, il est là. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à partir de là, on peut commencer d'avoir des vraies relations avec Dieu, parce que je n'ai pas à prendre ma voix du dimanche, à mettre mon costume pour aller voir Dieu. Hein. « Oh Seigneur, mon Dieu, ce matin... » Non, c'est moi, je parle comme je te parle toute la semaine, tu me connais, tu me vois sous la douche, dans les toilettes, au boulot, là, quand je m'énerve, quand je dors, quand je fais des bêtises, ben, c'est moi le même. Et du coup, j'ai plus peur d'être dans la présence de Dieu tout le temps, même quand ça ne va pas. Même quand je fais ce qu'il ne faut pas éventuellement. Et je le sais, après il faut que je traite ça avec lui. Hein. Et puis c'est pareil avec les gens. J'ai plus peur des gens. Ils ne peuvent pas découvrir que je suis un raté, un ci, un ça, que je ne suis pas bien. Ils le savent déjà. Mais du coup, c'est simple. J'ai plus peur. Et vous savez, quand vous avez plus peur, vous faites plus peur. Et quand les gens ont plus peur, alors on commence d'avoir des vraies relations. Parce que vous n'êtes plus un concurrent. Vous n'êtes plus celui qui va leur... hein ? C'est plus pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est un peu différent, mais c'est quand même pareil. Hein ? Mais c'est vrai, quand deux hommes se rencontrent... Hein Vous avez vu deux chiens qui se rencontrent, hein ? Ça se renifle, et puis c'est pas toujours le plus gros ou le plus... Hein, c'est juste celui qui a le plus de... Hein. Moi, j'ai un bichon frisé, mon fils a un gros dog, machin truc, là, qui fait 40 kilos. Ben, dans ma maison, c'est le bichon frisé, le chef. Il le vire de son panier, et puis, parce qu'il a décidé que c'était lui le chef. Hein, voilà, rapport de force. Le corps de Christ, ça doit être autre chose que ça. Le monde, c'est le plus fort, c'est le chef. Les entreprises, c'est comme ça. Tout partout, c'est comme ça. Le plus fort, c'est le chef. Dans le royaume de Dieu, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Hein. Si on veut savoir, est-ce que c'est le royaume des hommes ou est-ce que c'est le royaume de Dieu ? Dans le royaume de Dieu, les chefs, c'est ceux qui servent. C'est ceux qui lavent les pieds des autres, de façon symbolique. Ça peut être littéral, mais en général, c'est symbolique. Hein. Et, non, mais moi je veux être puissant, parce que quand je serai puissant, je pourrai témoigner. Ouais, tu pourras témoigner que tu es puissant. Et puis tu mettras un peu de peinture chrétienne dessus, puis ça ne sert à rien. Hein. Mais voilà. Alors, moi je nous souhaite une année sans tricher. On va tous tricher, mais sans tricher. Hein. Et puis dire à Dieu, ben voilà, je ne suis pas capable de ne pas tricher. Et c'est là que ça commence. Parce que je triche encore tous les jours, tout le temps, bien sûr, malgré tout ce que je dis. Hein. Mais au moins, chaque fois que j'en suis conscient, je vais à Dieu et je dis « Eh mince, voilà, c'est moi le tricheur, coucou !» Et c'est une façon d'être honnête, même quand on triche. J'écoute, j'aimerais que ça disparaisse, parce que si je triche encore là-dedans, c'est que j'ai encore peur. Et si j'ai peur, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour, parce que l'amour détruit la crainte et la peur. Et puis m'approcher de lui, et puis ben, on va recommencer toutes nos vies comme ça. C'est pas grave, on est à l'école. Et puis, ben voilà, un jour, on sera débarrassé de ça parce qu'on sera comme lui. Ça sera magnifique. Mais pour le moment, on est sur ce chemin et puis je suis content de le faire avec vous. Merci. Seigneur, merci parce que tu as su répondre à ces tentations. Tu as su ne pas tomber dans le piège, toi qui n'as jamais triché. Ce n'est pas notre cas. Mais tu nous connais, tu nous aimes comme nous sommes. Tu savais déjà tout et tu as choisi quand même ce chemin-là. Alors nous te demandons que pour cette année qui vient juste de commencer, pour chacune de nos vies individuellement, pour notre communauté, pour ton royaume dans cette région, dans ce pays et sur la surface de la terre, que tes enfants, en commençant par chacun d'entre nous, fassent le choix de ne pas tricher, d'être vrai, d'être honnête avec toi, les uns avec les autres, avec ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, d'être rempli de toi, toujours plus, toujours plus. Nous voulons juste essayer de t'appartenir et puis te laisser faire, Seigneur. Nous ne pouvons pas fabriquer ta vie, mais nous voulons au moins essayer de ne pas l'éteindre, de ne pas l'étouffer, de ne pas l'empêcher de se manifester. Alors, fais ce travail dans nos vies, parce qu'on en est incapable, mais toi, tu sais le faire.